En guise d'introduction, je voudrais lire une parole de Dieu tirée de Romains chapitre 4, du verset 1. Romains chapitre 4, du verset 1. Que dirons-nous donc de notre ancêtre Abraham? Qu'a-t-il obtenu selon la chair? En effet, si Abraham a été justifié par sur la base des œuvres, il a certainement des raisons de se glorifier, mais pas devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté pour justice. Si donc quelqu'un fait des œuvres, ce n'est pas par grâce qu'il reçoit le salaire, mais comme des choses dues. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même que salaire, que David, pardon, prononce la béatitude sur l'homme à qui Dieu impute la justice sans tenir compte des œuvres. Bienheureux ceux dont les transgressions de la loi ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts. Bienheureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas de péché. Levons-nous pour prier ensemble. Levons-nous et prions ensemble. Père Céleste, je te remercie de tout cœur pour la grâce qui nous est faite d'être réunis ici aujourd'hui. C'est tout à fait consciemment que nous plaçons cette réunion sous la couverture du sang de l'agneau. Que nous demandons que la victoire de Golgotha soit manifestée dans l'esprit, l'âme et le corps. Sauve ceux qui sont perdus, guéris les malades, libère ceux qui sont accablés. Seigneur, puisses-tu toi-même, pendant la proclamation de ta parole, produire l'effet et confirmer ce pourquoi tu envoies ta parole. Élève ta droite sur nous et donne-nous ta victoire et ta paix. Reprends tout sens et toute pensée sous l'obéissance de ta volonté, enseigne-nous tes voies et conduis-nous par tes voies, à la louange et à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Au cours de ce service divin, je vais essayer de rester silencieux. Ce n'est pas toujours facile quand on est saisi et profondément touché intérieurement, mais j'espère que vous le comprendrez tous. Pardonnez-moi si j'ai parfois été un peu bruyant dans le passé, mais on pourrait prendre une trompette et crier le message divin dans le monde comme avec le son de trompette, le plus de trompette. Le plus puissant. Aujourd'hui, nous voulons faire une étude biblique sur Abraham et sa vie, sur la signification de ce grand homme de Dieu et prophète dans l'histoire du salut. Et je vous dis que c'est exactement aujourd'hui, il y a une semaine, que j'ai traduit une prédication de Frère Branham. Et dans la phrase d'introduction de la prière, il exprime la pensée et dit: Seigneur, tout comme Abraham a attendu le Fils promis, nous aussi nous attendons le Fils promis qui doit venir ou qui doit sortir. Et c'est à ce moment-là que la pensée m'a frappé. Lis l'histoire d'Abraham. Et nous arrivons aujourd'hui à un point qui ne sera pas seulement important pour nous qui sommes présents ici. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à tous, en particulier à ceux qui sont peut-être ici pour la première fois. Il sera important non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui percevront ce raisonnement par la grâce de Dieu. Je crois que dans l'Ancien Testament, l'histoire du salut dans le Nouveau Testament a été anticipée, symbolisée. Mais alors montrée en image, et je vous le demande, de quoi le Seigneur Jésus, de quoi les apôtres ont-ils annoncé l'Évangile? De quoi? À l'époque, rien n'était encore écrit dans le Nouveau Testament. Pas même une ligne, une phrase. Ce n'est qu'après que le Seigneur Jésus a été crucifié, enseveli, ressuscité et est monté au ciel. C'est après l'effusion du Saint-Esprit. Et cela va jusqu'aux années où Paul a fait les différents voyages à travers les pays et les églises. Et où Jean a reçu la révélation prophétique sur l'île de Patmos en l'an 95, mais alors 95. Et le canon du Nouveau Testament, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'a été réuni dans sa composition et sa version globale que lors du Concile de Nicée en 325. Jusqu'à cette date, les écrits du Nouveau Testament n'avaient fait que circuler principalement dans les églises d'Asie mineure qui fait maintenant partie de la Turquie. Mais comme j'en parlerai dans la prochaine lettre circulaire, je ne vais pas y faire référence cet après-midi. Nous voulons apprendre quelque chose de la vie d'Abraham, qui avait une promesse particulière, et cela, je suis un homme qui n'aime pas révéler les secrets, mais quand il s'agit de mystères divins, c'est tout à fait différent. Alors, on peut les dire assez vite. Alors, je ne supporte pas d'attendre qu'ils soient dits. Je veux cette parole. On pourrait lire Romains chapitre 4 en entier. On pourrait lire Galates 4 en entier. On pourrait revenir à l'Ancien Testament. Mais laissez-moi lire très rapidement Romains 4 à partir du verset 13. Romains 4 du verset 13. Car la promesse qu'Abraham ou sa postérité a reçue d'être l'héritier du monde ne lui a pas été faite par la loi, mais par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine ou alors sans valeur et la promesse est anéantie. Vous pouvez vous-même continuer à lire, ou bien quand est-ce que vous voulez, et continuer à lire le reste. Maintenant, Galates 4. Galates 4. À partir du verset 21. Dites-moi donc, vous qui aimez à être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de la servante et un de la femme libre. Déjà, je voudrais m'arrêter un instant et vous dire qu'Abraham n'avait pas seulement deux fils, mais qu'Abraham avait beaucoup de fils. Je voudrais vous le lire dans les chroniques de la généalogie des Saintes Écritures, afin que vous sachiez exactement à quoi nous allons aboutir cet après-midi. Je pense que Dieu l'a mis sur mon cœur pour montrer dans quelle situation nous nous trouvons maintenant. C'est très important. Nous pouvons en effet prêcher sur le passé et sur l'avenir. Et si nous n'évaluons pas correctement le présent, nous ne pourrons pas faire face au passé ni à l'avenir mentionné. Ici, dans les chroniques, je dois le lire juste pour que vous sachiez qu'il s'agit de ces deux fils en particulier, et c'est pourquoi ils sont adressés. Ces choses sont adressées à eux ici. Il s'agit de ces deux fils en particulier, et c'est pourquoi on s'adresse à eux. Ici, dans 1 Chronique, au premier chapitre, au verset 32, nous lisons. 1 Chronique 1, verset 32. Et les fils de Ketura, concubine d'Abraham, elle enfanta Zimram, Jakzan, Medan, Madian, Jisbak et Shuar. Je lis cette parole seulement pour revenir maintenant à Galates 4. Ici, l'apôtre dans Galates a montré par le Saint-Esprit. Donc, il a seulement parlé de deux fils. Pourquoi pas parler de tous les autres? Parce que les autres n'avaient aucun rapport avec le développement prophétique de l'histoire du salut du Nouveau Testament. Mais ces deux fils, Ismaël et Isaac, avaient une signification pour l'histoire du salut de la Nouvelle Alliance. C'est pourquoi il affirme ici avec audace et conformément à la vérité, comme nous l'avons lu, qu'Abraham avait deux fils, l'un de la servante et l'autre de la femme libre. Mais que celui de la servante n'était que son fils engendré par la chair. Celui de la femme libre, lui, était né en vertu de la promesse. Abraham engendra les deux fils. Il engendra Ismaël et aussi Isaac. Mais il engendra Ismaël parce que sa femme le lui avait dit. Et il engendra Isaac parce que Dieu le lui avait dit. Et nous entrons maintenant dans un sujet qui doit nous faire prendre conscience de ce que Frère Branham a dit. Je ne sais pas dans quelle prédication, dans quel sermon c'est, mais je ne le sais d'abord pas une fois, mais plusieurs fois. Frère Branham a dit que de chaque réveil naissent des jumeaux, ceux qui sont charnels et ceux qui sont spirituels. Que chaque fois que Dieu fait quelque chose de spécial et donne un réveil, ces deux lignées ressortent. La première chose qui est née est Ismaël. Et c'est Israël qui est né la première, donc première, comme premier. Et ce fut une grande déception, car il est écrit, je veux vous le lire, qu'il sera comme un âne sauvage. C'est écrit littéralement, sinon je n'aurais même pas envie de mettre ce mot dans ma bouche. Genèse, chapitre 16, verset 12. Il sera un homme comme un âne sauvage, sa main contre tous et la main de tous contre lui, et il sera rebelle à tout. Et il sera rebelle à tous ses frères. Alors, si vous lisez l'histoire d'Abraham, vous pouvez constater, et c'est ici au verset 3, qu'il était déjà dans ce pays depuis 10 ans. Il avait donc 75 ans, donc 75 ans, lorsqu'il s'y est installé. Et vous pouvez lire au verset 16, il est dit ici, Genèse 16, verset 16. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar lui donna naissance d'Ismaël. Nous reviendrons tout à l'heure sur Galates 4. Et vous verrez que Paul y explique que ces deux femmes avaient une signification. L'une, la montagne de Sinaï, la loi, l'autre, la libre, la grâce. Nous y reviendrons plus tard. Mais ici, puisque nous en sommes, ici à Genèse 16, lisons ce qui s'est passé. Lisons ce qui s'est passé ici, peut-être à partir du verset 1. Genèse 16, verset 1. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Alors Saraï dit à Abraham, « Tu vois que l'Éternel m'a refusé la bénédiction des enfants. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Quand Abraham accepta la proposition de sa femme, Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, sa servante égyptienne, et la donna pour femme à son mari Abraham. Or, Abraham habitait à l'époque depuis 10 ans au pays de Canaan. Abraham alla ensuite chez Agar et elle devint enceinte. Mais quand elle s'aperçut qu'elle allait être mère, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Alors Saraï dit à Abraham, « L'affront qui m'est fait est de ta faute. Moi-même, je t'ai donné ma servante de corps dans les bras. » En fait, un paradoxe. C'est paradoxal. Elle dit, « Abraham, cet affront est de ta faute. » Mais ensuite, elle dit, « C'est pourtant moi qui te l'ai mise dans les mains. » Voici un mystère dont nous allons entendre parler maintenant par la grâce de Dieu. C'est une certaine mi-temps. Et dans une mi-temps, il faut se réorienter. Il faut prendre une décision et savoir comment aller de l'avant. Si nous allons à Genèse 15, c'est là que l'Éternel Dieu a fait les promesses, ou la promesse tout d'abord, c'est écrit dans Genèse 15, verset 1. Après cela, la parole de l'Éternel vint à Abraham en une vision. La parole de l'Éternel vint à Abraham en une vision. Ne crains pas, Abraham, car je suis ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, « Ah, Éternel, mon Dieu, que pourrais-tu me donner? Je pars en effet sans enfant, et le propriétaire de mes biens sera Eliezer de Damas. » Puis Abraham poursuivit, « Ah, tu ne m'as pas donné d'enfant, c'est pourquoi l'un des serviteurs de ma maison sera mon héritier. » Mais la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, un fils corporel qui héritera de toi. Il le fit sortir ensuite à l'air libre et lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Puis il poursuivit, telle sera ta descendance. Abraham crut l'Éternel, et l'Éternel le lui compta comme justice. Nous arrivons maintenant à un point très important. Abraham qui a entendu la promesse de la bouche de l'Éternel, Dieu, je te donnerai un fils, et qu'il a cru de tout son cœur, et qui était le prophète de Dieu à cette époque, a reçu ce message prophétique. Il n'a cependant pas attendu que les temps soient accomplis, mais, et si nous voulons déjà anticiper la notion de femme dans l'Ancien Testament, se prolonge dans le Nouveau Testament et a une signification symbolique pour l'Église. Nous voyons qu'Abraham, avec la parole révélée de Dieu, a d'abord engendré un fils selon la chair, qui était tout simplement sauvage, dont on ne pouvait rien faire, avec qui on ne pouvait rien faire, et qui n'avait pas de part d'héritage à prendre. Vous diriez, oui, mon Dieu, c'est un tel homme de Dieu à qui le Seigneur a parlé, que cela est arrivé. Et puis, dans le Nouveau Testament, le Seigneur rend encore témoignage par l'Esprit et la bouche de Paul qu'Abraham a cru Dieu et que cela lui a été imputé à justice. À justice. J'insiste, il s'agit d'une signification liée à l'histoire du salut. Ce n'est pas un Abraham, ce n'est pas Abraham qui a échoué. Ce n'est pas Dieu qui n'a pas tenu sa promesse. Mais l'éternel Dieu, et c'est ce que je vais vous lire dans Galates 4, il avait déjà en tête ce que nous voyons en fait à l'époque avec Jérusalem et maintenant avec l'Église, c'est ce qu'il voulait révéler. Galates 4, nous lisons ici le verset 23. Cependant, celui de la servante n'était que son fils engendré selon la chair, mais celui-ci de la femme libre, lui, était né en vertu de la promesse. C'est au figuré, car ceci représente deux alliances. L'une du mont Sinaï, qui enfante pour la servitude, c'est Agar. Le mot Agar signifie en effet la montagne du Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem d'aujourd'hui. Car, s'il vous plaît, faites attention. Il n'est pas écrit correspond à l'Israël d'aujourd'hui, mais à la Jérusalem d'aujourd'hui. Pas l'Israël, mais la Jérusalem d'aujourd'hui. Car celle-ci est en servitude avec ses enfants. La Jérusalem d'en haut, au contraire, est une libre. Et celle-ci est notre mère, car il est écrit, « Réjouis-toi, toi qui n'as pas d'enfant, qui ne sera pas mère. Réjouis-toi et exulte, toi qui n'as pas à souffrir des douleurs de l'enfantement, car celle qui est seule a de nombreux enfants plus que celle qui est mariée. Mais vous, frères, vous êtes à la manière d'Isaac, des enfants de la promesse. Mais comme alors le fils engendré selon la chair a persécuté celui qui était engendré selon l'esprit, ainsi en est-il maintenant. Mais que dit l'Écriture à ce sujet? Rejette la servante et son fils, car le fils de la servante n'aura pas le même droit d'héritage que le fils de la femme libre. Les deux, l'Église, qui a ses dispositions naturelles, sentiments naturels, et l'Église épouse, qui adopte les dispositions divines, qui reçoit les sentiments, les pensées de Dieu. Mais toutes deux ont été engendrées, toutes deux ont été appelées à l'existence par la même parole. C'était Abraham, le même père, Ismaël et Isaac. La seule différence qui existait, c'est qu'Isaac devait naître en vertu de la promesse divine, et cela dans un but extraordinaire, celui de prendre possession de l'héritage. Tout ce que nous faisons ne nous sert à rien, à moins que nous ne recevions et ne croyions vraiment les promesses de Dieu, et cela de tout notre cœur et de toute notre âme. Dans cette période, dans ce temps dans lequel nous vivons, il y a suffisamment de gens dans le monde entier qui disent « Oui, C'est par le message de frère Branham que je suis venu à la foi. Et je pense en particulier à mon temps en Inde. J'ai eu le grand privilège de parler dans l'immense église de Bombay où frère Branham avait parlé devant une foule extraordinaire. Et l'évêque m'avait invité. J'ai pu y prendre la parole. J'ai pu parler là-bas. Beaucoup sont venus à la foi. Ils sont nés, ils sont sortis en rapport avec le ministère prophétique pour ce temps. Mais maintenant, dis-je, comme je le disais, c'est la mi-temps. Et nous devons faire la distinction entre ceux qui sont simplement nés de l'enthousiasme humain pour ce que Dieu a fait, pour ce qu'il a dit, et ceux qui ont été engendrés par l'Esprit de Dieu et qui sont nés de nouveau pour une espérance nouvelle, vivante, qui nous a été accordée par grâce, par la résurrection de Jésus-Christ. Nous allons maintenant nous pencher plus en détail sur cet état d'esprit humain dans l'Esprit Saint, dans Galates 5. Je crois que Dieu m'a directement chargé d'apporter ce message. Galates 5, nous lisons ici le verset 16. Galates 5, verset 16, particulièrement le verset 17. Le verset 16. Mais je veux dire ceci, marchez dans l'esprit et vous n'accomplirez sûrement pas la convoitise de la chair. Car la chair par ses désirs résiste à l'esprit et de même l'esprit à la chair. Car ces deux-là sont en conflit ensemble et ne tolèrent pas que vous fassiez ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Mais manifestes sont les œuvres de la chair, qui sont la fornication, l'immoralité, se dévergonder, idolâtrie, sorcellerie, inimitié, dispute, jalousie, se fâcher, égoïsme, méchant, désunion, division, donc, égoïsme, méchant, désunion, division, l'envie, l'ivrognerie, le dérèglement, etc. Restons ici un moment. Ici, un état est décrit qui est humain et non divin. Un état qui fait remonter à la surface notre ancienne nature, qui extériorise l'intérieur pour nous faire voir ce qu'il y a réellement dans notre cœur. Lorsque je suis devenu croyant, il y a de nombreuses années, il y avait une petite brochure intitulée « Le miroir du cœur ». Et toutes ces choses y étaient mentionnées. C'était un tel examen de conscience, ce qui est écrit ici dans Galates 5. C'était le cœur qui était représenté d'abord, un peu sombre et noir, avec toutes les caractéristiques que nous venons de lire. Et puis, entre les deux, lavé avec le sang, et ensuite sur le côté droit, d'un blanc brillant, avec toutes les nouvelles caractéristiques, avec les fruits de l'esprit, avec la nature de Jésus, avec tout ce qui appartient à une nature, à la nature divine. Et si nous nous regardons maintenant ici dans le miroir de la parole, et la parole n'est pas une loupe, ni un télescope, ou bien des jumelles. Non, si nous avons regardé dans le miroir et oublié à quoi nous ressemblions, vraiment, cela ne nous a pas du tout aidé. Soyons tout à fait honnêtes et sincères. Si quelque chose en vous n'est pas en ordre extérieurement, vous n'auriez pas, vous auriez par exemple par exemple, fait la bougie d'allumage de la voiture et oubliez que votre main est un peu huileuse ou cela, ou sale, et vous auriez ensuite essuyé brièvement la sueur sans mouchoir et vous auriez trois traits d'huile au-dessus du front. Et quelqu'un viendrait vers vous et dirait, écoutez bien, cher monsieur, vous avez sans doute quelque chose à rattraper, à nettoyer. Et vous vous regarderiez dans le miroir à ce moment-là, oui, à cause de la reconnaissance, vous ne sauriez pas quoi faire pour cet homme, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je ne voudrais pas comme ça aller partout avec de l'huile dans mon front, sans le savoir. Je voudrais dire merci à cette personne de tout mon cœur. Et je trouverais que ce n'est pas gentil, tous ceux qui m'ont vu comme ça, sans me dire oui ou non. Soyez sincères. Je dirais, mais comment ils m'ont vu? On penserait à tous ces gens qu'on a vus sans qu'ils nous aient dit quelque chose. Quelqu'un qui est sincère dans son cœur pensera ainsi. Il sera reconnaissant pour la remarque qu'on lui fait. Mais la personne qui passe pour attirer ton attention ou la mienne n'a pas besoin de déclencher une dispute. Il n'a pas besoin de commencer à argumenter. Il doit simplement dire de quoi il s'agit et ensuite il peut continuer, tout simplement, son chemin, car le reste, il ne peut pas le faire pour toi. Ça, c'est toi qui dois régler cela avec ton Dieu, toi-même. Et c'est là que nous aimerions parfois retirer, n'est-ce pas, la paille de l'œil du frère. Et cela fait mal aussi. Hein. Vous savez, quand on a une écharpe, une écharde ou bien une paille, ça fait mal, hein, c'est très douloureux. Et on fait en sorte de l'enlever très dès que possible. Ici, dans la parole de Dieu, tout ce qui appartient à l'engendrement charnel, à l'être, à la nature humaine, à l'état déchu, nous est présenté ensuite. Il nous est montré l'homme nouveau, racheté en Christ, justifié, libéré du péché. Pour une fois, soyez honnête à ce sujet. Et sincère, notre Seigneur Jésus, en tant qu'agneau de Dieu, n'a fait de mal à aucun homme. Il n'a fait que du bien. Et beaucoup l'ont, malgré tout, détesté. Haï. Beaucoup l'avaient pris comme un ennemi. Certains lui avaient crié dessus, d'autres l'avaient méprisé et les derniers l'avaient même dénudé et frappé, le réduisant à néant de toutes les manières possibles. Mais lui, il a aimé jusqu'à la mort sur la croix, en disant, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. La nature divine ne s'arrête pas à l'épreuve. La nature divine va et reste en nous jusqu'à ce que, ayant participé à l'ignominie, nous nous tenions debout, dépouillés devant tout le monde et que nous soyons crucifiés avec lui. Je viens de l'agriculture, vous le savez, et j'ai dû faire paître le bétail dans mes jeunes années, dans ma jeunesse, dans mon adolescence. Et à mon époque, les pâturages n'étaient pas clôturés comme aujourd'hui, mais ils restaient là 2 ou 3 ans. Puis ils étaient labourés, puis on y semait du blé, puis ils revenaient là 2 ou 3 ans. Mais quand on faisait paître le bétail, on avait un chien. Et si le bétail voulait aller chez le voisin, on pouvait lâcher le chien et le chien était toujours là. Hein. Mais il était toujours à l'endroit pour empêcher cela. Mais j'avais aussi des moutons parmi le bétail. Vous auriez pu vous mettre à côté d'un mouton et le chahuter autant de fois et autant que vous le vouliez, vous auriez pu faire la tête. Aucun d'entre vous n'est capable d'exciter un mouton. J'ai rarement besoin d'exemple. Mais cet exemple tiré de la nature qui a été gravé dans ma mémoire dès mon enfance, à ciel ouvert, le Seigneur Jésus était l'agneau. Il y est allé. Rien ne pouvait l'empêcher, ni d'ici, ni de là, de gauche ou de droite, de derrière ou de devant. Rien ne pouvait l'empêcher, pourquoi pas? Parce qu'il était l'agneau de Dieu. Il n'a pas ouvert la bouche. Et cela aurait pu donner l'impression à l'extérieur, lui, il reste silencieux sur tout. Donc, ça veut dire que la chose n'est pas en ordre. Ça veut dire qu'il est vraiment coupable. Vous savez, avec Dieu, les choses ont parfois l'air très différentes de ce qu'elles ont l'air chez nous. Mais prenez, je reviens à l'exemple, seulement maintenant, le contraste d'un animal à l'autre, et vous verrez la différence. Frère Branham a donné un sermon, l'agneau et la colombe. Et il s'est référé à Matthieu 3, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Jésus en tant que l'agneau après son baptême, sous la forme d'une colombe. Et Frère Branham dit textuellement dans le sermon, s'il n'avait pas eu la nature de l'agneau, la colombe ne se serait jamais posée sur lui. Le Saint-Esprit ne pourra appliquer son sceau et s'installer de manière finale et définitive que là où la nature de l'agneau de Jésus-Christ peut être manifestée dans ta vie et dans la mienne par grâce. On peut hériter de nouveau de choses de manière purement extérieure. L'un est naturellement calme, il n'est pas tout de suite excité, énervé, mais ensuite il a d'autres choses avec lesquelles il ne peut pas tenir devant Dieu. N'est-ce pas? Si l'on énumère ici tout le registre des péchés, je ne sais pas si un seul d'entre nous s'en sortira indemne. Car c'est écrit ainsi, or les œuvres de la chair sont manifestes, à savoir la fornication, l'immoralité, se dévergonder, l'idolâtrie, sorcellerie, inimitié, dispute, jalousie, se fâcher, égoïsme méchant, désunion, division, l'envie, l'ivrognerie, le dérèglement, etc. Le dérèglement. Regardez tout ce qui est énuméré ici et quelque part, nous nous reconnaissons aussi dans ce tableau d'ensemble. Quelque part, la parole de Dieu nous interpelle tous sur tel ou tel point, sur telle ou telle autre chose. Mais une chose est sûre, si nous faisons partie de ceux qui n'ont pas été engendrés prématurément selon la chair, par enthousiasme comme Ismaël, mais qui sont porteurs de la promesse divine, alors nous recevrons ce renouvellement spirituel et cette nouvelle naissance par le Saint-Esprit, et cela par grâce. Et là, je suis d'accord à 100% avec Frère Branham, comme dans tout ce qu'il a dit. Ce qui compte, ce n'est pas la bénédiction extérieure, mais ce qui compte, c'est ce que Dieu a pu accomplir ou produire dans un homme, ou opérer dans un homme. C'est ce qui compte. De l'extérieur, on peut entendre parler de grandes bénédictions. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de préciser qu'il y a une église et qu'il y a une épouse, qu'il y a des appelés et qu'il y a des élus, qu'il y a des personnes qui prendront part à la première résurrection et d'autres qui ne seront présentes qu'à la deuxième résurrection. Le groupe de vainqueurs qui a entendu les promesses de Dieu et y a cru, il peut nous arriver, et je l'admets volontiers aujourd'hui, de nous avoir attendu à ce que le fils mâle soit déjà né, comme nous le lisons dans Apocalypse 12, par la parole révélée du Seigneur. Mais permettez-moi de dire très clairement que si quelque chose est apparu dans cette mi-temps, j'aimerais le souligner, c'est que ceux qui sont engendrés selon la chair ont été manifestés dans leur nature humaine. Ça, c'est vrai. On aurait pu dire à Abraham, écoute, mon ami, les choses ne se passent pas ainsi. Mais c'est justement là que Dieu a voulu mettre à l'épreuve afin de déterminer qui est spirituel ou qui pense l'être. Nous pouvons nous sentir aussi spirituels que possible. Et d'un autre côté, nous pouvons être si charnels que c'en est presque impossible. Mais Dieu nous donne la grâce de voir clairement toutes choses au temps voulu. Pourquoi? C'est écrit dans chaque écrit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et celui qui vaincra héritera de toutes ces choses. Il s'agit maintenant de faire preuve de patience. Sarah avait perdu patience. Abraham se joignit à elle. La dispute a commencé. Et l'un dit à l'autre, « C'est de ta faute si les choses sont devenues ainsi. » Et qu'est-ce que c'était en fait? C'était en fait une conduite de Dieu afin que soit déjà révélé de manière purement extérieure qui est appelé à l'existence sans promesse et qui est appelé à l'existence avec une promesse. Qui est appelé à l'existence sans la volonté de Dieu et qui est appelé à l'existence dans la volonté de Dieu. Dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, il est écrit que nous ne sommes pas nés de la volonté d'un homme, ni par le sang d'un homme, mais de Dieu. Le chapitre 3 dit, ce qui est né de la chair, dans 2 Jean, Jean 3, ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et puis nous passons à 1 Jean, chapitre 5. Qui ou quoi est tout ce qui est engendré ou né de Dieu vainque le monde. Et c'est là la foi qui a vaincu le monde. C'est la foi de la victoire. La foi en la victoire totale et complète sur la croix à Golgotha. Extérieurement, les deux étaient des fils d'Abraham. Mais intérieurement et spirituellement, il y avait une très grande différence entre eux. Lorsque le temps est arrivé de prendre possession de l'héritage, il est dit Abraham n'a fait que des dons à tous ses autres fils, mais à Isaac, il a donné tout l'héritage. Chers frères et sœurs, chers amis, où en es-tu, où en suis-je? Sommes-nous des gens à l'esprit charnel qui n'ont entendu que le message de la fin des temps? Et j'insiste, Abraham était le père d'Ismaël, tout comme il était le père d'Isaac. Les uns peuvent se référer à frère Branham comme les autres. Les uns peuvent se référer à Paul comme les autres. Cela dépend de la promesse que Dieu a faite. Mais le fait que le Fils engendré selon la chair ait dévancé le Fils engendré selon l'Esprit et en est en fait introduit et est en fait introduit une certaine confusion dans le programme de Dieu. Selon notre point de vue, nous ne pouvons pas le voir ainsi parce que Paul, guidé par l'Esprit, présente ensuite dans le Nouveau Testament ces deux femmes avec leurs fils d'un point de vue divin, comme personne d'autre ne l'aurait soupçonné ou su si cela n'avait pas été écrit. Et c'est ainsi que Dieu a expliqué dans le Nouveau Testament ce qui s'est passé dans l'Ancien, a donné de la clarté à ce sujet afin que personne n'ait besoin de continuer à marcher dans les ténèbres. Il en sortira deux groupes qui se réclameront tous deux de frère Branham, du message, de la fin des temps, de tout ce qui est possible. Mais ici, les désunions, déjà les divisions, les hostilités, les querelles, les disputes et tout cela, et tout le reste, ce sont déjà des caractéristiques d'Ismaël et non d'Isaac. Isaac n'avait pas besoin de se battre et de se disputer. Dieu se combattait pour lui. Il n'avait pas besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit. Dieu avait pris soin de lui. Dieu avait fait la promesse. Il était né de la promesse. La bénédiction de Dieu reposait sur lui depuis le premier jour jusqu'au dernier. Mais ce n'était pas le cas d'Ismaël. Et c'est là que nous devons saisir notre leçon dans ce temps dans lequel nous vivons. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais frère Branham a fait référence au temps d'Abraham et à notre temps dans de nombreuses prédications. Et il a dit, de la même manière que le Seigneur s'est alors révélé à Abraham, le dos tourné à la tente, et a fait connaître les secrets du cœur de Sarah, de la même manière, le même Seigneur s'est révélé à notre époque par l'intermédiaire de sa parole révélée et du ministère prophétique. Mais de la même manière qu'autrefois, par Abraham, qui était le prophète de Dieu, porteur de la promesse, et un homme justifié par la foi, mais qui, entre-temps, a fait une chose ou en a fait une autre sous l'approbation de Dieu que Dieu a permis comme une providence qui est devenue une offense que les hommes n'ont pas pu surmonter, uniquement pour que soit révélé ce qu'il y a réellement dans les cœurs de chacun. Et nous serons un jour, si nous faisons partie des premiers-nés, reconnaissant à Dieu de ce que tout ce qui sommeillait et se trouvait encore dans nos cœurs a été extériorisé. À quoi cela sert-il à un homme si les choses restent cachées jusqu'au retour du Seigneur et que nous devons ainsi rencontrer notre Dieu avec cela dans le cœur? Non, nous devrions le remercier de nous d'avoir donné la possibilité de nous reconnaître vraiment nous-mêmes au travers du miroir de la parole, moi et toi, devant sa face dans sa lumière. Et celui qui se reconnaît dans la présence de Dieu n'aura plus de peine avec son frère et sa sœur. Nous pensons maintenant à la partie, spirituelle, et il est dit ici, verset 22, Galates 5, le fruit de l'esprit, en revanche, réside dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la constance. Contre de tels fruits de l'esprit, la loi ne peut porter aucune accusation. Mais ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. J'aborderai également ce sujet dans la prochaine lettre circulaire. Et j'espère seulement que tous seront vraiment conduits par l'Esprit dans toute la vérité. Abraham, le père de la foi, un homme qui avait reçu grâce, avait reçu la grâce de Dieu, qui avait été choisi, élu, qui avait une rencontre directe, pas une seule, mais plusieurs rencontres avec le Seigneur. Un porteur de la promesse divine dans son temps. Et si, dans l'intervalle, entre-temps, avant même que la promesse ne soit tenue, il se passait quelque chose au sujet duquel une dispute éclatait et elle ne servait à personne. Il fallait attendre que quelques années s'écoulent à nouveau. Abraham avait alors 100 ans et Sarah 90 ou bien 90 quand Isaac est né. Dieu a parfois plus de temps que nous. Sarah s'est précipitée et Abraham l'a suivi. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la précipitation? Qu'est-ce qui s'est passé en raison de sa propre volonté et de la propre proposition? Un fils engendré selon la chair qui était sauvage lui contre tous et tous contre lui, il n'y avait pas de lien spirituel entre Ismaël et Isaac, et il n'y en a pas jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est peut-être pas pour rien exactement que exactement 40 peuples sur terre ont eu des gouvernements islamiques. Donc, mahométans. Et nous voyons que justement l'islam, les mahométans, les descendants d'Ismaël, ont une haine mortelle contre le peuple d'Israël, contre les descendants d'Isaac. Et lorsque j'étais en Turquie, j'ai constaté quelque chose, je ne veux pas le dire aujourd'hui, si cela vous concerne, cela va dans Ézéchiel, dans l'enseignement prophétique, mais les choses se rapprochent tout à portée de main. Ce que Dieu a dit par les prophètes depuis les temps anciens est en train de s'accomplir. Et Paul, le prophète et apôtre du Nouveau Testament, a dit ici, « Et vous, frères, bien-aimés, vous êtes à la manière d'Isaac, des enfants de la promesse. » C'est une parole glorieuse. Je crois que nous sommes enfants de la promesse divine. Et en tant qu'enfants, nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Et si nous avons compris cela dans la foi, alors ce qui est haut, ce qui est bas, ce qui est présent, ce qui est à venir, rien pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est là en Jésus-Christ notre Seigneur. Et pas non plus, rien ne pourra nous séparer non plus les uns des autres. À un moment, à un autre verset, je m'excuse si je cite encore Frère Branham, mais il était le porte-parole de Dieu, il était le prophète du Seigneur dans ce temps, et il a dit, vous ne verrez pas des élus persécutés des élus. Pourquoi pas? Parce qu'ils sont issus de la même semence. Ils ont la même nature divine. Ils peuvent avoir telle faiblesse pour l'un, telle autre pour l'autre, mais ils sont nés de Dieu. Ils sont engendrés de Dieu et ont dans leur cœur la foi vivante et le témoignage du Saint-Esprit, ou bien alors par le Saint-Esprit, qu'ils sont enfants de Dieu. Mais si la parole de Dieu nous montre déjà ici que deux directions différentes proviennent du même homme, nous pourrions ici aller plus loin. Ésaü et Jacob étaient aussi frères, selon la chair, dans la chair. Mais cela n'entre pas tout à fait dans le cadre de ce sujet. Il faut simplement comprendre à quoi ressemble le chemin de Dieu. Le chemin des brebis est le chemin de l'agneau. Et l'agneau de Dieu a pris un chemin totalement méprisé. Et quand? Et directement avant la fermeture de la porte. Alors, qu'elle était sur le point de s'achever et de donner un nouveau départ, tout s'est emballé. Seules les choses terrestres, extérieures, que les hommes avaient sous les yeux sur le moment, sont arrivées à leur terme. Le spirituel et le divin sont apparus juste après, car la crucifixion et la mise au tombeau n'étaient pas la fin. Ce n'était que la fin d'une étape. La résurrection était le début d'une nouvelle étape. Et lorsque nous lisons dans la parole de Dieu que nous sommes crucifiés avec Christ, alors je me demande aujourd'hui si nous étions crucifiés corporellement. Cela se ferait-il sans douleur? Est-ce que cela se passe sans douleur et sans plainte? Il y aura beaucoup de douleur qui te traversera et qui me traversera. Et nous en arrivons maintenant au point suivant. Si nous devons être spirituellement crucifiés avec Christ, pensez-vous que cela se fasse simplement en venant accrocher son chapeau et en disant « Me voici, cher Dieu ». Non. Il faudra passer par une détresse intérieure, une douleur, des épreuves, pour dire, Seigneur, laisse passer cette coupe devant moi, je n'arrive pas à la boire. Nous pouvons parler de Gethsémani, mais ce n'est pas le but, nous devons le vivre. Nous pouvons parler de Golgotha, mais cela ne suffit pas si nous n'en avons pas fait l'expérience personnellement d'être mort avec lui. Et tout comme notre Seigneur a parcouru ce chemin, et je me suis parfois demandé pourquoi moi, le plus misérable de tous, mais je vous le dis, je l'ai déjà remarqué, peut-être pas encore tout à fait terminé, car certaines choses m'attendent encore. Mais je l'ai déjà remarqué que quel fruit paisible de justice jaillit chez ceux qui passent par la souffrance. Quel fruit paisible de justice jaillit chez ceux qui passent par la souffrance et sont éprouvés jusqu'à l'extrême, qu'on devrait vraiment penser à chaque instant. Maintenant, ce n'est plus possible. C'est fini. Et puis, le Seigneur tend sa main, transpercée, et dit, ça continue. Et le Seigneur suivra avec le troupeau des prémices le même chemin qu'il a suivi en tant que premier et qui consiste à apprendre l'obéissance totale, comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, par la souffrance et à parvenir ainsi à la perfection. Voulez-vous que je vous le lise? Il est écrit dans Hébreux que même le Seigneur Jésus, en tant que Fils de Dieu, a dû apprendre l'obéissance. Comment? Par ses souffrances. Et c'est ainsi qu'il a parvenu à la perfection. Hébreux chapitre 5, verset 7. Dans les jours de sa chair. Hébreux 5, verset 7. Dans les jours de sa chair, il a présenté des prières et des supplications avec de grands cris et des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé dans son angoisse. Et qui, malgré sa condition de fils, a appris l'obéissance par ses souffrances. Ayant ainsi atteint la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel. Celui à qui Dieu a donné le nom de souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus notre Seigneur, qui n'avait ni faute ni péché, qui né d'une vierge, engendré par l'Esprit, est venu dans ce corps de chair. Il a crié. Lui, quand est-ce qu'un homme crie-t-il? Quand il se trouve dans une situation terrible. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà crié de détresse. Je sais ce que cela signifie. Dans certaines situations de ma vie, une fois dans un avion, personne ne se fait une idée. Je ne veux pas m'étendre sur ce sujet. Notre Seigneur avec de grands cris et des larmes, a tout donné, a tout remis à celui qui l'a exaucé et qui l'a, dans cette souffrance, dans l'obéissance, dans la souffrance. Quand tout va bien, oui, nous semblons être aussi obéissants qu'il est possible, n'est-ce pas, de l'être, mais c'est dans les épreuves que notre obéissance est exigée et qu'elle apparaît au grand jour, ou alors c'est le contraire qui se manifeste. Et c'est ainsi qu'il est devenu l'auteur de notre salut et qu'il a trouvé son accomplissement, sa perfection. Qu'il a atteint la perfection. L'Église trouvera sa perfection de la même manière, atteindra la perfection de la même manière que l'époux l'a atteinte et pas autrement. Il est la tête et nous sommes les membres. Il est la lumière et nous sommes l'éclat de la lumière, le reflet. En ce qui concerne notre position de fils, il y a une parole dans Hébreux 12 que je voudrais lire rapidement. Hébreux 12, du verset 4. Car jusqu'à présent, vous n'avez pas résisté jusqu'au sang dans la lutte contre le péché. Et vous avez oublié la parole d'avertissement qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne perds pas courage quand tu es repris par lui. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime et il fouette tout fils qu'il accepte comme le sien. Il y a une parole sur laquelle je dois m'arrêter très brièvement. Il n'est pas écrit qu'il fait cela avec chaque fils qu'il engendre, mais plutôt avec chaque fils qu'il accepte comme le sien. Nous arrivons ici à Romains 8. Tout fils qui a subi son épreuve et qui est établi dans son héritage. Nous attendons tous la manifestation des fils de Dieu, mais l'établissement dans la filiation, pas dans l'adoption, le mot correct c'est la filiation, ne se fait pas à la naissance ni à la nouvelle naissance. C'est ainsi que nous devenons fils de Dieu, mais d'être établi dans la place même que Dieu nous a assignée, donc dans la tâche même directe, et pour entrer dans l'héritage. Concrètement, cela ne se produit pas lorsque nous naissons naturellement dans ce monde. Ce n'est que lorsque nous sommes devenus majeurs et que le testament a été exécuté que nous sommes directement installés dans la filiation, dans la position de fils, dans la part d'héritage. Maintenant, il est écrit ici que tout fils qui est accepté comme fils, comme sien, est fouetté. Et si vous le fouettez, si vous voulez le châtier, il faut bien qu'il soit là avant qu'il ne l'accepte comme sien. Et cela peut nous paraître étrange. Qui donc passerait son propre fils à la moulinette de la sorte? Et pour être honnête, j'ai toujours regretté d'avoir dû mettre une raclée à mes fils. Mais aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir été assez sévère. Et vous pouvez me croire, il n'y a rien de pire dans la vie que de devoir vivre avec des reproches à soi-même, de se faire soi-même des reproches. Si tu fais des reproches aux autres, c'est une bonne chose pour toi, n'est-ce pas? Mais si tu dois te juger toi-même et que tu dois te faire des reproches sur tel ou tel point, dans telle ou telle chose, c'est une chose que je ne souhaite vraiment à personne. Si le Seigneur n'était pas bien disposé à notre égard, il nous laisserait courir comme nous l'entendons et à la fin, nous nous retrouverions avec un long nez et sans rien de tout l'héritage de Dieu. Que veut nous dire la parole des Hébreux ici? Que les fils et les filles de Dieu sont corrigés, qu'ils sont soumis à la discipline divine. Et s'il y en a, comme mon père a l'habitude de dire, il a fait ce qu'il fallait. Il a enlevé le licol du cheval et l'a attaché ensemble, puis il a donné tout ce qu'il pouvait, ou le fouet, ou tout ce qui était à sa disposition. Et je ne connais aucun homme sur terre, à part Frère Branham, que j'ai aimé, estimé et respecté autant que mon propre père. La parole de mon père était la plus proche de celle de Dieu lui-même. Ce que mon père disait était pour moi un ordre. Que cela me convenait ou pas, que je fasse la gueule de travers ou droite, n'était pas du tout déterminant. Pour moi, c'était la parole de mon père et sa correction. Sur le moment, ça faisait mal, bien sûr, mais ensuite, je savais que c'était bien fait. Et je vous le dis, j'ai été châtié, j'ai été sévèrement châtié, mais ça a aidé. J'ai encore lavé les pieds de mon père à 12 ans, 13, 14, 15 ans. Oui, c'est vrai. Quand il rentrait le soir, fatigué du travail agricole, je savais en temps que son fils, quelle était ma tâche. Un homme qui avait transpiré toute la journée, je savais où se trouvait la cuvette et l'eau. Et je suis allé vers mon père qui s'était assis, fatigué. Je lui ai lavé les pieds. Je l'aimais profondément, de tout mon cœur. Mais parfois, il m'a corrigé d'une manière que je ne savais pas exactement combien de temps je pourrais supporter de rester assis pendant 3 jours. Je devais rester là assis pendant 3 jours. Il ne m'a pas gâté, il m'a éduqué. Et moi, qu'est-ce que je vous dis? Je l'ai dit devant vous tous. Je n'ai pas éduqué mes filles, je les ai gâtées. Et la récolte est différente, n'est-ce pas? C'est une parole sérieuse. Je n'ajoute ces exemples terrestres que pour nous faire comprendre le sens et la signification divine dont il est question cet après-midi. Lorsque le Seigneur dit, où serait un fils qui serait resté sans correction et qui aurait été ensuite établi? Cela n'existe pas. Un fils doit se plier à la discipline de son père, se conformer aux ordonnances. Il doit être fidèle à la ligne. Il doit avoir réussi les épreuves, les examens. Et alors, il peut être établi. Si le père a une confiance totale à lui, en lui, et ne se dit pas, attendez, quand il aura le truc entre les mains, je ne verrai plus rien d'eux et je n'en entendrai plus parler. Non, tout passera. Non, non, ce n'est pas comme ça avec notre Dieu. Notre Dieu, notre Père Céleste est maintenant en train de procéder à un châtiment qui peut être douloureux en nous tous en ce moment. Mais je vous le dis, si ce châtiment n'est pas encore venu sur vous, il viendra encore sur vous. Car où serait un fils sans châtiment? Et ailleurs, il est dit, pour l'instant, il nous semble que c'est de la tristesse. Bien sûr, on pleure, la douleur est grande. Mais plus tard, on peut déjà remarquer, après quelques heures et quelques jours, combien une correction a déjà été précieuse sur le plan terrestre, combien plus sur le plan spirituel. Et comme nous vivons sur le plan terrestre, à une époque où les enfants suivent généralement leur propre voie et que la parole prophétique adressée à Timothée dit « Au temps de la fin, les enfants seront désobéissants aux parents » et ainsi de suite. Si nous transposons cela au spirituel, il en va exactement de même, car le naturel n'est qu'un reflet du spirituel. Qui sommes-nous aujourd'hui? Et c'est sur ce point que je dois conclure. Que sommes-nous? Car l'heure est avancée. Où en sommes-nous aujourd'hui? Qui sommes-nous en fait? Avons-nous été engendrés à la manière d'Ismaël ou à la manière humaine, bien que nous ayons entendu la parole de la bouche appelée d'un prophète, n'est-ce pas? D'une bouche mandatée. S'agissait-il d'un enthousiasme humain, d'une procréation humaine? Où sommes-nous? D'un engendrement humain, où est-ce que nous sommes vraiment sûrs aujourd'hui que ce n'était pas un enthousiasme, mais un acte divin dans notre vie, que nous sommes vraiment nés comme enfants des promesses divines pour notre temps? Nous avons été ainsi appelés à sortir par la nouvelle naissance, par les promesses divines de la parole de Dieu, c'est par la grâce de notre Dieu. Ça, c'est la question cet après-midi. Cet après-midi, si nous sommes des enfants à la manière d'Isaac, alors nous ne sommes pas sauvages et nous ne le devenons pas non plus. Alors nous sommes des gens apprivoisés. Alors chacun peut nous parler ainsi, sans agitation et sans qu'il y ait un problème. Et tout le monde peut parler sans s'énerver. Et on est des gens à qui on peut parler. Partout où les gens s'emportent, s'irritent, il manque la nature de Jésus, il manque la nature divine, il manque les qualités que l'Esprit Saint doit apporter dans ta vie et dans la mienne. Que Dieu utilise cet après-midi pour ce sermon où qu'il soit entendu dans tout le pays, dans tous les pays, dans tous les groupes, dans tous les foyers, dans tous les cercles, dans tous les foyers, nous fasse comprendre qu'entre temps, parmi le peuple de Dieu, des choses humaines ont effectivement été mises en évidence. Des choses qui viennent de l'homme, des programmes humains, des idées humaines, et chacun en a suffisamment. Mais comment et où est vraiment l'action de Dieu lui-même, le rassemblement de l'épouse? Maintenant, lundi, par exemple, il y avait 3 apôtres dans mon appartement. Et j'ai dit, frère, j'ai vraiment l'honneur de vous avoir dans ma maison, mais je dois penser au premier écrit à l'église d'Éphèse. J'ai examiné ceux qui prétendaient être des envoyés du Seigneur, des apôtres, et qui ne l'étaient pas. On peut penser être ceci ou cela, pouvoir faire ceci et cela. Mais que dit Dieu à ce sujet dans sa parole? Qu'est-ce que Dieu a pu réellement faire de toi? Ce n'est pas la question, que veux-tu faire de toi-même? Cela échouerait. Mais la question c'est, qu'est-ce que Dieu a pu faire de toi réellement? Qu'est-ce que sa parole a pu opérer en toi réellement? Pourquoi l'avons-nous entendu après toutes ces années? Pour finalement tomber dans une quelconque escroquerie et tromperie? Bien sûr, quelqu'un peut entrer dans une maison et parler jusqu'à ce que les gens soient confus. Mais je vais vous dire une chose. Les hommes de Dieu n'allaient pas de maison en maison. Ils allaient en public. Ils allaient au temple. Ils sont allés à la synagogue. Ils sont allés dans la salle de Salomon. Ils allaient là où se trouvait le peuple. Et ils ne sifflaient pas dans leur dos comme un serpent en disant quelque chose ici ou là. Mais ils annonçaient, envoyés par le Seigneur, la parole de Dieu avec une honnêteté et une vérité absolue, sur mandat, vraiment sous un mandat divin. Mais nous vivons à une époque où ce passage de l'Écriture doit aussi être accompli, où ils vont et viennent dans les maisons et détruisent des maisons entières. Qui veut réparer les dégâts une fois pour toutes? Seul Dieu peut le faire. Je vous le dis, ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu et qui sont éclairés, sauront si un homme parle de Dieu en se référant à lui-même ou s'il a vraiment Jésus-Christ et la cause de Dieu sous les yeux. Et certains peuvent être tiraillés de droite et de gauche, mais je vous le dis, le Seigneur continuera son œuvre qu'il a commencé malgré ma faiblesse et la vôtre, comme pour Abraham et Sarah, malgré leur faiblesse, si nous voulons le dire humainement. L'heure et le jour sont venus. Et savez-vous ce qui s'est passé? Le Seigneur vint à Abraham et lui dit, à cette époque de l'année, tu auras ton fils promis. Et Abraham se mit à rire. C'est ce qui s'est écrit. Il rit et se dit en lui-même, vieil homme, qu'est-ce que je peux encore faire? Et qu'est-ce que c'était? C'était l'heure de Dieu. C'est pas lui qui devait faire quelque chose. Et c'était en raison de l'autorité de la parole de Dieu. J'ose dire aussi aujourd'hui qu'au temps de la fin, Dieu traitera avec la semence d'Abraham exactement comme il a fait autrefois. A-t-il annulé sa promesse à cause d'Ismaël? Absolument pas. Une fois le temps accompli, malgré ce qui s'était passé en temps, il est réapparu à Abraham et il lui a dit, écoute Abraham, c'est vers cette année, vers ce temps-là que ça se passera. Oui, il a dû rire. Dieu nous fera encore rire. Ça, je le sais. Nous pouvons bien pleurer en ce moment et nous lamenter maintenant, mais nous avons tellement l'habitude et nous disons parfois, rira bien qui rira le dernier. Je vous le dis, nous entrerons dans la gloire de notre Dieu en poussant des cris de joie. Nous tenons fermement à l'œuvre, nous tenons fermement à l'œuvre rédemptrice du calvaire, à l'œuvre accomplie à Golgotha, accomplie pour toi et pour moi. Le sang précieux de l'agneau a été versé pour racheter une multitude qui a été lavée et purifiée dans le sang de l'agneau. Sans tâche, ni ride, nous serons les premiers-nés changés en l'image de Jésus-Christ lui-même. Ayons encore un peu de patience. Nous pouvons maintenant voir les fils d'Ismaël et dire, oui, tout cela, en valait-il la peine? On ne s'arrête pas à la mi-temps, n'est-ce pas? On attend jusqu'à la fin. Et les saintes Écritures disent, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera couronné. Mais celui qui abandonne au milieu et dit, je ne comprends plus. Il a vu Sarah, Abraham, impossible, ce n'est pas possible. Oui, Sarah et Abraham. Oui, deux alliances, l'une dans la loi, l'autre dans la grâce. L'une charnelle et humaine, l'autre spirituelle et divine. Où te tiens-tu? Où en suis-je? Qu'est-ce que Dieu a pu faire réellement en toi? Qu'est-ce qu'il a pu faire en moi par grâce? Réellement, qu'il nous donne aujourd'hui la certitude que ce que nous voyons remonter à la surface en ce moment, ce ne sont pas les enfants de la promesse à la manière d'Isaac, un peu sauvage ici ou là, mais l'autre chose qui vient des hommes. Mais Dieu, lui, tiendra sa parole en son temps pour ceux qui sauront persévérer jusqu'à ce que l'heure de Dieu sonne. La patience vous est nécessaire afin que vous obteniez la promesse. Après avoir fait la volonté de Dieu, Sarah s'était impatientée. Abraham se laissa entraîner. Déjà, cela se produisait. L'adversité était déjà là. Et les problèmes. Mais Dieu est fidèle. Il ne s'arrête pas là où toi et moi échouons. C'est là qu'il commence et qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir en son temps, dans sa gloire et sa puissance. Nous aimons sa parole révélée. Nous savons que ce n'est pas un homme, mais Dieu qui nous a parlé en ce temps par le Saint-Esprit, par la bouche de son serviteur et prophète. Et personne n'a besoin de l'interpréter ou de l'expliquer. Il suffit de croire et d'attendre qu'il plaise à Dieu de faire ce qu'il a décidé de faire, ce qu'il s'est proposé de faire. Combien d'entre vous croient qu'il ne viendra pas trop tard et qu'au moment opportun, comme pour Abraham, il fera en sorte que la promesse s'accomplisse sur la semence d'Abraham et que le fils mâle surgisse, non pas sauvage, mais apprivoisé à l'image de Jésus-Christ, éduqué. Et le Seigneur fera monter les siens dans la gloire et nous serons toujours avec lui, auprès de lui. Qu'il nous bénisse, toi et moi, qu'il nous bénisse tous de la richesse de sa grâce, au nom de Jésus. Amen. Levons-nous et prions. Peut-être commencerons-nous par chanter le chœur habituel tel que je suis, tel il doit être. Tel que je suis, tel il doit être. Pas ma force, mais la tienne. Ton sang me lave, pur du péché. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Père céleste, comme nous avons chanté, nous venons de même, nous venons à toi. Où pourrions-nous aller, ô Seigneur? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Sauveur, exerce sur moi tout châtiment nécessaire pour que je puisse être établi comme fils. Seigneur, inflige ce châtiment à tous ceux qui sont tes fils et tes filles. Pour l'instant, il nous semble qu'il n'y a que de l'affliction. Où que nous regardions, nous ressentons la douleur en nous-mêmes et en tous. Seigneur, car nous sommes les membres d'un même corps, unis étant joints par le Saint-Esprit, engendrés par la parole et l'esprit. Seigneur, nous ressentons les uns pour les autres, mais toi, tu ressembles d'autant plus. Et c'est précisément dans ton châtiment que ton amour, dans ton châtiment que nous recevons, que ton amour pour nous se manifeste. Tu ne veux pas nous gâter, mais nous éduquer. Et nous t'en remercions. Maître fidèle, j'aimerais souvent dire, laisse passer sur moi cette coupe amère. Mais si cette coupe sert à donner dans la mort mon vieil homme pour être crucifié en totalité avec toi réellement, Seigneur, ne m'épargne pas, ô Seigneur. Et je te prie pour tous mes frères, pour toutes mes sœurs. N'épargne aucun d'entre nous, mais châtie-nous dans ton amour et ta sévérité. Et fais jaillir un fruit paisible de justice. Maintenant, nous t'apportons tous ceux qui ont levé les mains. Ô Dieu du ciel, tu sais ce qu'ils demandent. Tu sais ce dont ils ont besoin. Quelle est la nature de leur détresse et de leurs besoins? Tu es tout en tous, ô Seigneur. Tu connais chacun d'eux. Tu sais où ils vivent et de quoi ils ont besoin. Seigneur, que tu n'aies pas seulement parlé avec nous. Opère donc maintenant une foi vivante par ta parole entendue en ta présence, afin que ce que nous demandons puisse apparaître. Ah, je te remercie, Maître fidèle. Et si je n'ai pas pu exprimer tout ce que tu m'as mis sur le cœur, je te prie en toute humilité de vouloir bien continuer à agir toi-même par le Saint-Esprit dans chaque cœur, de continuer à parler au Seigneur jusqu'à ce que nous parvenions tous à la pleine compréhension de la connaissance du Fils de Dieu et à l'unité de la foi que toi seul peux et va opérer. Avec mes frères et sœurs, je te remercie pour Golgotha, pour le sang versé, pour la rédemption et le pardon. Plus blanc que la neige. Alléluia. Gloire et honneur à ton nom. Tu as dit que si votre péché était rouge sang, il deviendrait blanc comme la neige. C'est ce qui s'est passé à Golgotha. Lorsque tu as proclamé, tout est accompli. Rendons grâce pour cela. C'est ainsi que nous le croyons. C'est ainsi que nous l'acceptons. Continue à agir. Touche aussi les corps malades. Tu es le Seigneur, notre médecin. Là où les hommes échouent, tu ne peux pas échouer, car tu es Dieu. Et là où les puissances spirituelles sont en jeu, nous sommes totalement impuissants. Là, nous ne pouvons même pas aller vers un médecin terrestre. C'est là que tu as voulu donner l'autorité divine au Seigneur et intervenir et délivrer. Sauveur, crée toi un peuple au cœur pur qui te soit ensuite consacré et sanctifié. Crée-le par la puissance de ton sang, par ta parole et par ton esprit. Seigneur, tu sais que moi aussi j'ai parfois besoin d'être rassuré, ô Dieu, et que moi aussi je pense assez souvent que je ne peux pas aller plus loin et que ça ne peut pas continuer ainsi. Mais je sais que tu as aussi un chemin pour moi. Tu as un chemin pour chacun d'entre nous. Et ce chemin, nous pouvons et devons le suivre pour atteindre le but. Que ce soit ton chemin, dans ma vie et dans la nôtre, c'est ma prière et notre supplication à tous. Achève ton œuvre par grâce et fais que nous soyons des enfants de la promesse à la manière d'Isaac, capables d'entrer en possession de l'héritage en tant qu'héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Adoration et gloire à toi pour cela, au nom de Jésus. Amen.